14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio et ça fait plaisir de se retrouver après ces quelques semaines de vacances. Et oui, c'est toujours émouvant de se retrouver, même si aujourd'hui, tout particulièrement pour cette première rentrée, eh bien on va parler des séparations. Vous voyez comme quoi, hein, c'est pas toujours très cohérent. Mais j'espère que vous avez profité de cet été pour vous retrouver, pour vous ressourcer, que vous soyez seul ou en couple. Vous savez, c'est souvent des moments un peu hors du temps et ça devrait servir à ça, ça devrait servir à se ressourcer. C'est aussi durant l'été que parfois on prend la décision de couper. Alors ça peut être un lien familial, ça peut être un travail qui ne nous convient plus. Et puis bien sûr, ça peut être une relation qu'elle soit de longue date ou même un amour d'été. Ces ruptures sont toujours des moments douloureux, même si bien sûr elles peuvent nous faire grandir, elles peuvent nous enrichir. Ce sont des expériences, c'est du moins ce que va nous raconter notre invitée Anne-Laure Buffet qui est l'auteur de ce livre « Ces séparations qui nous font grandir ». Alors faire le deuil, c'est une expression qu'on entend de plus en plus, hein. C'est vrai qu'on l'utilise un petit peu peut-être de temps en temps à tort et à travers. On va essayer aussi de comprendre ce que ça signifie et puis comment on peut faire quelque chose de positif justement de ces séparations. Alors si actuellement vous êtes en pleine séparation, si vous êtes en plein chagrin d'amour, ça peut vous paraître assez absurde, hein. Alors raison de plus pour venir témoigner. On essaiera de que vous arriviez à trouver quelque chose de positif dans cette séparation. Et puis, de toute façon, je vous invite à venir nous raconter vos ruptures, vos changements de cap dans votre vie. Et pour ça, vous nous appelez au 0826-300-300. Bonjour, Anne-Laure Buffet.
Bonjour, Brigitte.
Merci d'être avec nous pour ce premier jour de rentrée.
Merci à vous, c'est un plaisir d'être là.
Alors, ces séparations qui nous font grandir, je le montre parce que vous savez qu'on est filmé maintenant, on est sur YouTube et on peut nous suivre, donc je montre le livre pour ceux que ça intéresse, c'est aux éditions Erol. Vous êtes quelqu'un qui essaye toujours d'être positif, hein, vous êtes une thérapeute positive.
Oui, j'espère qu'ils le sont tous, les thérapeutes positifs, mais oui, non, j'essaye d'être... Je vais me vanter, c'est la rentrée intelligemment positive. On peut pas positiver de tout et surtout, mais essayer en tout cas de montrer que dans les situations même les plus compliquées, on peut à terme trouver un moyen de vivre avec et de se proposer à soi-même une autre issue, un autre possible que ce qui était simplement arrêté par un terme. Alors séparation, rupture, deuil. Chômage, licenciement, toutes les fractures qu'on a dans notre vie. Il est indéniable qu'il y a un moment où il y a un arrêt qui est extrêmement compliqué à vivre, mais est-ce qu'on doit s'arrêter à l'arrêt ou est-ce qu'il est possible de faire autre chose au-delà de l'arrêt ?
Alors justement, hein, je l'ai dit dans l'introduction, c'est toujours douloureux quelque chose qui s'arrête, même si c'est nous qui l'avons décidé. Hein. Mm-hmm. On peut très bien avoir choisi de rompre une relation amoureuse. Néanmoins, ça va créer quelque chose de un petit peu déstabilisant, on pourrait dire ça.
C'est déstabilisant déjà parce que ça nous remet en cause. Si on prend la séparation la plus évidente à laquelle on peut penser, la séparation amoureuse, quand on est en couple... A priori, quand on rentre dans une histoire amoureuse, on ne se dit pas, au pire, si ça ne marche pas, j'arrêterai. Ah, on espère quand même que ça va durer toute notre vie.
C'est toujours un échec, en fait.
Donc, il y a le sentiment que c'est un échec. Il y a en tout cas, c'est l'échec des croyances et de tout ce que l'on avait investi dans la relation, de se dire, je suis peut-être allée trop loin, je me suis peut-être trompée sur moi, sur l'autre, j'ai peut-être trop investi ou pas assez. Mais il y a beaucoup de remises en cause et c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire finalement l'autre n'était peut-être pas aussi parfait que ce que je voulais. D'ailleurs, la perfection, elle est trompeuse.
En tout cas, je l'ai peut-être vu tel que j'avais envie qu'il soit et la réalité me rattrape. Je pense qu'on est aussi assez différents suivant notre comportement et je trouve que c'est assez intéressant. À un moment donné, vous dites que ça dépend aussi de notre capacité à être libre, notre capacité à être indépendant. C'est vrai que les gens qui sont qui sont plus dépendants, si je puis dire, de la vie des autres et évidemment de l'amour, sont peut-être plus marqués encore par ces deuils, par ces...
En tout cas, ils les vivent beaucoup moins bien. C'est quand on est complètement en dépendance affective, ce qu'on appelle la dépendance affective, donc on est totalement dépendant de l'autre, et pas simplement de l'amour qu'on reçoit de l'autre, soi-même, il y a un sentiment d'immense solitude, d'immense vide quand on est seul. qu'il y a un réel besoin, ou une croyance, on a un réel besoin de l'autre. Si on se retrouve sans cet autre, on n'est plus rien. Donc là, effectivement, c'est très compliqué. C'est là où il faut aller pêcher au fond de soi, et souvent être aidé pour aller repêcher au fond de soi, ce qui fait qu'on est un être humain à part entière, et qu'on peut se retrouver autonome, on peut se retrouver indépendant, on peut se retrouver libre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Évidemment.
Et vivre.
Alors, faire le deuil, c'est une expression qu'on utilise beaucoup maintenant. Trop, vous trouvez, ou pas ?
Surtout, très honnêtement, je ne vois pas ce que ça veut dire, faire le deuil. Pour moi, faire, c'est fabriquer. Je ne vois pas comment on fabrique des émotions. Je ne me réveille pas le matin en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais me fabriquer une petite tristesse, puis demain, je vais me faire une petite colère pour voir. Et puis, c'est surtout, bien évidemment, il y a des étapes dans le deuil, et je ne reviens pas là-dessus, c'est indéniable. Mais on ne peut pas dire, je vais commencer par être dans le choc et la sidération. Dans la temporalité, ça dure quoi ? Une heure, une journée, un mois, j'en sais rien. Et puis après, je vais être triste. Et puis quand je serai plus triste, je vais être en colère. Puis après, je vais être dans l'acceptation. Et là, j'ai bien fait mes étapes du deuil. Donc, j'ai bien réussi mon deuil. Je vais avoir 10 sur 10. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on est plus triste. C'est pas parce qu'on est dans l'acceptation de ce que l'on a vécu qu'on reste pas, en pensant au moment où on l'a vécu, sidéré que ça se soit passé. Donc, un sentiment n'empêche pas l'autre. En revanche, le deuil, c'est-à-dire la capacité à passer à autre chose, ne se ressent pas tant qu'effectivement il n'y a pas eu une part de tristesse, une part de colère. Il ne faut pas aller les provoquer non plus. Elles se manifestent quand elles doivent se manifester, ces émotions.
Et c'est vrai que l'utilisation de mots un peu extrêmes, ça fait partie un petit peu du langage actuel. Parce qu'un deuil, ça évoque évidemment la mort, et faire le deuil de, je ne sais pas moi, d'une relation, c'est pas tout à fait la même chose que si on a perdu en effet son conjoint ou sa conjointe.
C'est pas le deuil de la relation, c'est le ça serait plus le deuil de ces croyances qu'on avait, qu'on faisait porter à l'autre, de cet être incroyable qu'on avait rencontré, qui avait toutes les qualités, puis on s'aperçoit qu'en fait c'est quelqu'un de normal, qui est pas forcément monstrueux ou terrible, mais qui est normal, et qui, donc il y a un décalage en fait entre ce qu'on recherchait, ce qu'on désirait, et puis la réalité. Et c'est pas tellement le deuil donc de la personne, certainement pas si elle est encore vivante, la pauvre, et pas de la relation, c'est un deuil par rapport à nous-mêmes en fait. C'est j'ai trop investi ou j'ai mal investi. Je dois me recentrer.
On va commencer par Paul, qui nous a rejoint et qui s'est fait quitter durant le confinement. Paul, hein, bonjour.
Oui, bonjour Anne-Laure, bonjour Brigitte, merci de m'avoir pris. Je viens de vous écouter, je me retrouve complètement dans ce qui vient d'être dit, dans le côté compliqué, dans le côté deuil subi, comment je le vis. Alors je vais vous juste vous raconter les épisodes précédents. Au début du Covid, voilà, je suis avec mon épouse depuis 10 ans, j'ai arrêté de travailler, j'attends sa retraite, je me réjouis, tout est bien, il y a confinement, il sera peut-être même à la maison. Et puis boum badaboum, il se passe des éléments extérieurs. Je vous avais appelé, Brigitte, il y a à peu près un mois. Il y a le papa de mon épouse qui a le Covid. On nous convoque parce que pour lui dire au revoir, parce que ils l'ont débranché et que c'est son dernier jour, peut-être, probablement. Et là, en fait, il y a un secret de famille qui explose, parce que ce papa avait violé mon épouse. Il n'y a que elle et moi qui sommes au courant, pas tout le reste. Et tout ça, ça explose en elle. Il y a d'autres choses, le boulot. Et on se retrouve à la fin du confinement où mon épouse me dit, je sais plus où j'en suis, je sais plus si je suis dans ce monde, je vais prendre 15 jours pour réfléchir à ma vie, est-ce que je reste en couple ou pas, alors qu'on venait d'investir dans le jardin début mars. Et à l'époque, quand je vous avais appelé, vous et votre invité m'avez donné deux conseils. Vous avez dit, laissez votre épouse faire cette réflexion, et voilà. Et votre invité avait dit, exprimez-vous, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui tout ça, poussez un peu. En fait, j'ai plutôt suivi votre conseil, j'ai laissé dans sa bulle, et ça fait 8 semaines que je ne sais pas où elle est, mais entre-temps, elle a exprimé via une avocate qu'elle veut divorcer. Et puis, j'ai accepté cette situation. Moi, je ne veux pas le divorce. Et comme entre-temps, elle a coupé, elle a changé d'adresse postale, elle a coupé sans qu'on puisse communiquer, je suis dans le fait, moi-même, de vouloir divorcer. Et lorsque j'écoute votre invité, Anne-Laure, qui vous disait, c'est la fin d'une croyance, c'est tout à fait ça. Mais moi, cette croyance, alors je veux bien que c'est une partie de la croyance, je veux bien que mon épouse n'était pas parfaite, mais j'étais quand même prêt à accepter qu'elle n'était pas tout à fait parfaite. Donc je suis en plein là-dedans, donc j'ai très très mal vécu le choc quand j'ai vu l'armoire vide, quand j'ai vu tout ça. Et du coup, j'acceptais ce qu'elle vivait. En même temps, j'étais amoureux, je l'aimais, j'étais pas pour divorce. j'ai réfléchi depuis 2 mois à tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que j'ai cru, qu'est-ce que j'ai pas cru, qu'est-ce qui est moi. Il n'empêche que l'amour et le côté amoureux, ça disparaît pas comme ça. Je suis retombé sur terre, alors je suis bien d'accord que je fais pas le deuil, je le subis, je le vis, et je me suis résolu à rentrer dedans pour me dire, peut-être, elle ne reviendra plus, et peut-être qu'il faut que tu cherches au fond de toi quelque chose pour revivre. Mais je vous avoue qu'il y a des jours, quand je vois cette maison magnifique, que je vais être obligé de quitter, qu'on va vendre, c'était notre projet, on était après, tout se passait bien, les enfants sont grands, on a un petit
fils. Vous êtes face à une réalité dont vous n'êtes absolument pas responsable, puisque c'est elle qui a pris la décision à sens unique. Paul, restez avec nous, on va vous aider avec Anne-Laure Buffet, notamment à donner du sens, hein, parce que c'est aussi un point sur lequel vous insistez beaucoup dans ce livre, Anne-Laure Buffet. Restez avec nous, Paul, on vous retrouve dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Anne-Laure Buffet, on évoque les séparations qui nous font mal, mais qui peuvent peut-être nous faire grandir. C'est ce qu'on espère, en tout cas pour vous, Paul. Paul, on a bien compris, donc c'est votre femme pendant le confinement, suite à au décès aussi de son père, hein, donc un événement quand même toujours très fort pour quelqu'un, qui a pris la décision à sens unique, hein, donc de rompre. Ce que je crois quand même, Paul, je le dis, mais on pourrait le dire pour toutes les femmes qui prennent à un moment donné la décision de rompre, en amont, il y avait certainement déjà des choses qui n'allaient pas pour elles et que vous n'avez pas vues.
Je suis tout à fait d'accord. J'ai vécu, ou je vis avec elle, je ne sais pas si je suis au passé ou pas, je suis en plein dedans, une très belle histoire d'amour. Alors, comme vous le dites, il y a des hauts et des bas, personne n'est parfait. Elle n'est pas parfaite. Bien sûr qu'au début, elle était parfaite. Après, j'ai constaté qu'elle ne l'était pas. Moi non plus, j'en suis conscient. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on avait toujours réussi à surmonter ces problèmes et de manière très lucide. Et là, je pensais sincèrement qu'on y arriverait. Or, on n'y arrive pas, donc je suis sur le point. Les amis qui nous connaissent, la moitié me disent « Mais sois patient, tu vas voir, elle va revenir. » Et puis les autres me disent « Bon, bah, tourne la page, t'as 60 ans, t'es encore en pleine forme. Tu peux faire une nouvelle. » Donc, je suis vraiment à un endroit... Et je vais me procurer le livre de Anne Buffet tel que vous l'avez présenté parce que je suis en plein dans ce sujet-là. Je suis juste sur la crête. Bien sûr qu'il y avait des choses en amont. Bien sûr que pendant 2 mois, j'ai réfléchi à tout ce qui allait, ce qui allait pas. On avait d'ailleurs pris un thérapeute de couple et ça se passait bien avec ce thérapeute. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Mais du coup, moi aussi, là, j'ai pris un peu la décision parce que la non-communication que m'a infliger mon épouse là depuis 8 semaines est un peu dur et je trouve que ça respecte pas, donc voilà, je suis
en tout cas ça ne
deux.
Respecte pas la relation que vous avez vous avez eue qui est une relation quand même de longue durée et qui a été une vraie relation.
Alors avec des imperfections et probablement et même sûr des choses que je n'ai pas vues, vous avez raison. Donc je m'interroge beaucoup. Alors ça me fait passer quelques nuits blanches quand même, hein, parce que qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et c'est là où je suis intéressé par un livre, parce que là je tourne en rond parfois à refaire le passé, mais je me rends compte que ça ne sert à rien. Il faudrait que je regarde devant moi pour redonner du sens à ma vie. Et peut-être, bah, je change complètement d'horizon, lâcher ce projet, cette maison et repartir à zéro. Ce qui n'était pas évident alors qu'on était tout près du but et que encore vous m'auriez interrogé à 4 mois, j'aurais dit c'est génial, tout n'est pas parfait, mais on va y arriver. Et j'y croyais.
Paul, il y a beaucoup de choses. Bonjour. Il y a beaucoup de choses dans votre témoignage. Il y a beaucoup d'éléments. C'est d'abord, c'est très courageux, c'est complexe, je trouve, de le livrer ainsi. Mais il y a beaucoup d'éléments. Il y a des éléments qui vous appartiennent à vous. Il y a ceux qui appartiennent à votre épouse. Il y a ceux qui appartiennent à votre couple. Et il y a tout ce qui est extérieur. On vient de traverser, c'est pas peine de le rappeler, le confinement, le déconfinement. Mais c'est vrai que ça a été très perturbant pour beaucoup de personnes qui ne s'en sont pas forcément rendues compte tout de suite et qui encore aujourd'hui se demandent pourquoi elles vont bien, moins bien et remettent en cause beaucoup de choses dans leur vie. Il y a le fait que votre beau-père et attraper la Covid et en soit décédé. Le fait qu'il y ait eu ce terrible secret de famille pour votre épouse qu'elle portait et que, si j'ai bien compris, vous portiez avec elle et que ça a explosé, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, ça a explosé avec le décès de votre beau-père.
Oui, parce que au-delà de vous, dans la chambre face à son père en disant qu'est-ce que je lui dis, au revoir ou pas. Là, il y a tout qui est remonté. Et moi, elle était en train de le traiter avec une fille et tout ça, mais ça n'avait pas été réglé avant sa mort, quoi. Donc maintenant, c'est toujours là et il va falloir qu'elle traite quand même.
Oui, mais justement, ça se concrétise par par cette volonté qu'elle a non seulement de s'éloigner, de plus donner de nouvelles et de divorcer, mais c'est d'abord une rupture complète avec elle-même. Je vous dis pas du tout que vous devez en martyr fidèle l'accepter,
non,
la subir.
Vous avez raison.
Mais elle vous entraîne avec elle dans ses propres fractures émotionnelles et affectives et familiales. C'est vrai que c'est à vous et en conscience de vous dire et de prendre le temps de vous dire je la suis ou au contraire j'arrête tout, j'attends, je suis patient comme le recommandent certains de vos amis ou au contraire je trace mon chemin et puis peut-être que nos chemins un jour se recroiseront ou pas. On peut pas avoir des boules de cristal, mais c'est vrai que vous êtes dans l'obligation et la nécessité de faire un travail sur vous et de vous concentrer sur vous. Mais elle-même, elle doit être dans une explosion affective, oui, et émotionnelle terrible.
Elle ne doit pas aller bien. Vous savez, Paul,
oui,
on peut
je
pas.
Je crois, c'est pour ça que je l'aime et que c'est pas si facile.
Oui,
et que
mais
je
Paul, pour l'instant, vous n'avez qu'une solution, c'est vous occuper de vous. Vous pouvez pas vous occuper d'elle puisque de toute façon vous n'avez plus de lien concret avec elle. Donc moi je crois que ce qu'il faudrait c'est essayer de, puisque vous avez envie de comprendre les choses. Alors bien sûr il y a des amis qui vous disent, qui vous conseillent, qui la connaissaient, etc. Méfiez-vous quand même de ce que vous disent vos amis parce que c'est souvent très subjectif. C'est souvent à ta place, moi je ferais ça, sauf qu'ils sont pas à votre place, ils sont en fonction d'eux-mêmes. Moi il y a deux, trois petits indices que je peux vous donner qui vont peut-être vous aider. Est-ce que pendant cette relation, elle a duré combien de temps?
Elle a duré plus de 10 ans.
Bon, donc pendant 10 ans, vous étiez à côté de cette femme. Est-ce que vous aviez l'impression que c'est vous qui la souteniez ou pas?
Ah, vous avez parfaitement raison dans tout ce que vous avez dit, c'est des subtilités.
Bon, donc voyez bien que oui. Actuellement il y a eu la mort de son père qui est quand même quelque chose de très fort, qui en plus était quand même dans une, c'était certainement une relation très ambivalente puisque c'était son père qu'elle aime comme toute fille, petite fille qui aime son père, mais c'est quand même son père qui l'a violée et donc il devait y avoir également beaucoup de haine et beaucoup de colère. Donc là ça a submergé cette femme et vous n'étiez plus suffisamment puissant par rapport au drame qu'elle traverse et c'est pour ça qu'elle vous abandonne. Vous voyez, ça c'est important à comprendre.
Alors oui, peut-être maintenant, moi j'essaie de tout comprendre mais je vais bien me rendre compte que je ne saurais pas tout puisque ce secret de famille, je l'ai appris qu'au milieu de la relation, quand à un moment donné je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec son père.
Alors, voilà,
et
vous
avec
me dites...
l'ensemble des hommes d'ailleurs.
Oui, mais bien sûr, et vous payez...
C'est pas de ta faute à toi.
Et vous payez actuellement, aussi cette douleur. Alors c'est pour ça qu'il faut arrêter de vous culpabiliser parce que moi je l'entends quand même entre...
Je culpabilise. Ah,
un petit peu, Paul.
Okay,
un tout petit peu.
Et donc, je l'accueille.
Accueillez-le, ce que je viens de vous dire, parce que je vous le dis pour vous aider. Il faut absolument que vous compreniez que peut-être elle reviendra, mais que de toute façon, si elle revient, il faut que vous profitiez de cette rupture pour vous consolider.
Ouais, si elle revient, de toute façon, elle ne sera plus celle qu'elle était. Et vous ne devez plus être celui que vous étiez parce que si elle part, c'est qu'elle attend autre chose. Elle a besoin d'autre chose et vous avez besoin d'autre chose d'ailleurs. Vous avez besoin l'un et l'autre d'être quelqu'un d'autre pour vous-même et pour l'autre dans la relation. C'est là aussi où les ruptures ou les séparations en tout cas sont parfois étonnantes. C'est que on espère retrouver après s'être séparé ce que l'on a quitté et nécessairement on doit s'attendre à retrouver autre chose parce qu'on doit être autrement dans la relation. Maintenant, je crois que qu'elle soit partie, elle est certainement pas partie contre vous ou à cause de vous. Elle est partie pour répondre à un de ses besoins, je ne sais lequel.
Je crois qu'elle a fui, tout simplement.
Mais elle se fuit aussi elle-même d'une certaine manière.
Bien sûr.
Ce divorce, c'est presque la rupture que elle a pas pu avoir avec son père puisque la mort est arrivée avant. Et qu'elle vous fait subir, mais bon, tout ça, ce sont nos jeux conscients et inconscients qui se mettent en place. Mais je crois que pour vous, il est important aussi de prendre ce temps de la réflexion sur, je vous dis pas faire une introspection sur 60 ans, quoique, mais vous dire, voilà, qu'aujourd'hui je connais de moi et qu'est-ce que je conserve de moi et comment je l'entretiens, ce moi.
Soyez votre sauveur et non plus le sauveur de cette femme que vous avez certainement été pendant 10 ans.
Oui, alors je suis parfaitement conscient, lorsque mes amis donnent des conseils, que c'est parfaitement subjectif et qu'ils sont bien intentionnés, je l'ai compris. Maintenant, dans la thérapie couple qu'on avait commencé, on avait bien senti qu'on serait autrement. Et c'est pour ça que j'avais un espoir. Je suis très conscient.
Vous
que...
l'aviez senti. Est-ce qu'elle elle l'avait senti? C'est pas sûr. Pas.
Non.
On n'en sait rien.
Ça, c'est vrai.
Vous voyez.
Exactement.
Et c'est toujours.
Mais c'est ça qui fait mal aussi. C'est on se dit ça joue à pas grand chose. Et là, l'impuissance est terrible. Cette impuissance.
Paul, vous avez vécu 10 ans. Vous avez vécu 10 ans d'une belle relation qui a été importante. Et aujourd'hui, vous êtes face à vous-même. Et c'est ce travail-là qu'il va falloir faire et qui va vous faire grandir, comme le dit si bien le livre de Anne-Laure Buffet, que je vous propose qu'on va vous l'offrir, on va vous le dédicacer toutes les deux et on va vous l'envoyer.
C'est notre... parce que je sens bien que c'est ça que
ben, on vous l'envoie et on vous l'envoie aujourd'hui et normalement vous allez le recevoir avant la fin de la semaine. On vous embrasse, Paul. Pensez à vous. Prenez soin
de
vous.
Et bon courage.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Dans un instant, on retrouve notre sexy news de Trinidad, avec qui on va continuer à garder le sourire.
Brigitte Lahaye Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous avons le plaisir d'accueillir Trinidad, qui va nous proposer de garder le sourire.
Toujours.
Mais ça, quelle importance sous le masque, de toute façon, ça ne se voit pas.
Ça. Soyons résistants. En tout cas, quel bonheur de vous retrouver pour cette 4e saison. Il y a 4 ans, je me souviens, pour ma première sexy news, je vous parlais du rouge à lèvres rouge et de sa symbolique. Eh bien, en ce jour de rentrée, ils ont une pensée émue pour Charles Lauder. Connaissez-vous Charles Lauder?
C'est le mari d'Esther Lauder, non?
Une descendance, je pense.
Bien, pas une descendance.
Je pense que c'est une descendance, oui. En tout cas, moi, c'est le. En tout cas,
c'est oui, le mari, c'est vrai qu'il serait.
Oui, il serait un peu fondu comme le fond de teint. En tout cas, figurez-vous que cet homme est le président du conseil d'administration de la firme de cosmétiques Estée Lauder et le créateur de l'indice rouge à lèvres. Qu'est-ce que l'indice rouge à lèvres? Un indice que notre Charles Lauder a eu l'idée de créer en 2000 et il a bossé notre Charles. Il a étudié plusieurs crises économiques, dont la Grande Dépression de 1929. Il a observé une corrélation inverse entre le niveau d'activité économique et les chiffres de vente des rouges à lèvres. En gros, wow. Plus l'économie mondiale va mal, plus il se vendrait de tubes de rouge à lèvres.
C'est incroyable parce que j'ai déjà lu des enquêtes sur les vêtements, la longueur des jupes, la hauteur des talons. Je ne savais pas qu'il y avait également le rouge à lèvres.
Notre Charles Lauder était fier et heureux comme un pape. Il avait produit un truc utile et vérifiable. Il chantait comme Gainsbourg. Économiquement, si elle est en galère, pour se faire plaisir avec un truc pas cher, quand elle va jeter son gel douche, la femme s'offre du rouge pour la bouche.
Voilà, résultat. Pas mal, hein? Une imitation de Gainsbourg maintenant.
J'ai ça vaut pas Brassens. Résultat en 2016, 27 tubes de rouge à lèvres étaient vendus chaque seconde dans le monde, soit 850 millions de tubes achetés chaque année. C'est dire si économiquement on était dans la merde. Gloss, satiné ou mat, le sourire coloré des femmes éclairait notre quotidien. Et oui, la femme fauchée qui avait envie de faire des achats, passer son stress sur ce substitut de sexe, sensuellement elle étalait ce petit bâton phallique sur sa bouche offerte au public. Et puis la suite, on la connaît. Il suffira d'un masque, un matin, qui te cache la bouche pour ton bien, pour éviter des miasmes, c'est certain. Et l'indice de Charles Lauder ne vaut rien. Car oui, Brigitte, depuis le début de la crise sanitaire et le port du masque obligatoire, à la crise économique s'ajoute la chute des ventes de rouge à lèvres. Elle est vertigineuse.
Wow.
On approche les moins 50% et pas que. On y est à moins 47% pour les lèvres, moins 33% pour les yeux, moins 27% pour le teint. Moi, tous les jours, Mario ne m'écrit, hein, je ne sais pas vous. Seule une femme sur 5 déclare se maquiller, soit 21% contre 42% des femmes il y a 3 ans.
Oui, mais ça, c'est vrai. Hein. Il y a eu tout un mouvement féministe qui considère qu'on n'a plus à se maquiller. Mais pourquoi pas?
Si vous devez poser un appareil dentaire, c'est le moment. Si vous deviez vous faire du silicone sur la bouche, faites un don. Une crise peut en cacher une autre, c'est une double peine. On n'a plus qu'à prier comme Jules les Églises, en français, Julio Iglesias. Toi, mon Charles, pauvre diable, tu peux ranger ton indice près du pubis. C'est la crise du Covid, même les rayons des parfumeries se vident. Alors, comme vous le disiez, pour les écolos, bobos, féministes, post-MeToo qui pensent régler leurs problèmes avec les hommes en devenant poilus et moches, c'est une victoire. C'est génial, j'en perds mon texte, il a disparu, ça y est. C'est génial. Enfin, on échappe aux normes physiques imposées par la société. En plus, le rouge à lèvres et le maquillage, c'est dégueulasse, il y a plein de produits chimiques dedans. Balance ton rouge. Je rappelle que le port sur les lèvres d'un produit coloré remonte à la civilisation mésopotamienne. À l'époque, les femmes utilisaient un mélange à base de pierres semi-précieuses broyées pour colorer leur bouche.
Dans l'Antiquité, on utilisait un mélange d'algues, d'iode et de brome. Ça donnait une jolie couleur entre le bordeaux et le pourpre et beaucoup de maladies. Pour Cléopâtre, c'était plutôt la méthode Bégon. Elle appliquait sur ses lèvres un mélange d'insectes broyés.
Ça, c'est à vérifier. Hein. Parce qu'on dit beaucoup de bêtises avec les insectes et Cléopâtre.
Au Xe siècle, alors que le grand physicien et chirurgien arabe Aboulkassis invente du rouge à lèvres solide et met en valeur notre bouche en babouche, en Europe, l'utilisation du maquillage est bannie par l'Église. Écoute ma voix, écoute ma prière. Tu es une tentatrice et ton rouge est pervers. Je t'en prie, ne sois pas farouche et efface le rouge de ta bouche. Il faudra attendre le XVIe siècle et la cour d'Élisabeth I pour que le maquillage des lèvres redevienne populaire. Cette fois-ci, un petit mélange de cire, d'abeille, des colorants naturels, le tour est joué. La marque Guerlain commercialise ses premiers bâtons de rouge dans les années 1880. L'actrice Sarah Bernhardt ose porter du rouge en public, ce qui ne se faisait pas du tout à cette époque, et rend donc le rouge populaire. Le tube de rouge à lèvres, tel qu'on le connaît dans sa forme phallique, apparaît en 1920, démocratisé par des marques comme Elena Rubinstein et Estée Lauder, l'ancêtre de Charles. C'est Elisabeth Arden qui sera la première à proposer des rouges de différentes couleurs dans les années 30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rouge à lèvres devient tellement rare qu'il est même vendu au marché noir. Et après la guerre, les pin-up et les icônes d'Hollywood finissent de populariser le port du rouge à lèvres. Une fois de plus, ce qui hier était un atout et une affirmation des femmes passe aujourd'hui pour un asservissement. Alors tant mieux si les femmes se sentent belles au naturel, c'est juste l'injonction qui me dérange. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je t'aime craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche et mets le masque sur ta bouche. Personnellement, j'ai envie de crier comme Kate Bush en démaquillant ma bouche. Aïe, aïe, ma bouche et ta mère. Et ta mère, elle va très bien. Hommes et femmes, bouche. Elle a survécu au Covid, d'ailleurs, elle survit à tout, la mienne, vous inquiétez pas. Hommes et femmes, bouche en cœur, de bouche pulpeuse, nous voilà bouche cousue. On le tient de la bouche du Premier ministre qui nous a laissé bouche bée jusqu'aux bouches du Rhône. Espérons que ça ne débouche pas sur une boucherie. Car au-delà d'amputer le pouvoir de séduction des femmes, ce qui disparaît chez nous tous, c'est notre sourire et ce relationnel qui se fait d'un individu à un autre par un simple étirement des lèvres. En médecine chinoise, le sourire est une énergie très puissante issue de notre cerveau reptilien pour les uns, de notre cœur pour les autres. C'est Jean Pélissier qui a dit ça. Oui, chez nous, sourire tout le temps. Vous voulez même, oui, d'accord. Vous voulez porc chop suey, parapluie, sac, fruits, légumes, oui, d'accord. Pour nous, sourire, c'est établir contact, faire tomber barrière. Chez nous, on dit, si mental et émotion perturbées, tu peux aller te faire intuber. Car ça va être première cause d'apparition des maladies internes. S'il n'y a plus de risette, c'est dépression dans la tête. Alors je fais acte de résistance en maquillant mes lèvres sous le masque, quitte à ressembler quand je l'enlève à un travelot qui a fait des fellations toute la nuit au bois. Je me sens la sœur sourire du rouge à lèvres. Dominique, nique, nique, s'en va sur le chemin, son bâton à la main. En tout chemin, en tout lieu, elle maquille les malheureux, rend les sourires lumineux.
Très en forme, je vais y rentrer.
Elle est très très en forme, Trinidad.
On a un petit peu ras le cul du masque, elle va dire.
À la bouche aussi.
C'est une belle manière de vous rebeller, de résister. Bravo Trinidad. En tout cas, vraiment, vous m'avez beaucoup fait rire. Je vous trouve très en forme. Et vous avez raison. C'est drôle, hein, cette mouvance comme ça de ne plus se maquiller. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, chez les femmes. C'est étonnant. Hein. Mm-hmm. Mais bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai aucun problème. Mais vous avez raison, pas d'injonction. Si on a envie de continuer à mettre un bon rouge bien brillant sur les ongles et sur la bouche,
exactement,
on fait comme Trinidad.
À côté de ça, il développe le mascara en ce moment. Et l'eyeliner. Et
oui, parce que les yeux, d'autant plus. On voit d'autant plus les yeux. C'est vrai. Alors en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle, Trinidad, puisque vous allez reprendre enfin ce spectacle qu'on n'a pas eu encore trop le temps de voir, hein, pour que tu t'aimes encore. Vous le reprenez à partir du 19 septembre au studio Héberto. C'est une belle petite salle qui se trouve donc au théâtre Héberto, j'imagine. Hein.
C'est ça.
Et c'est tous les mardis et les mercredis.
Oui, voilà. Il y a le 19, c'est un petit festival qui s'est créé pour combattre la morosité actuelle et les conditions actuelles. Et on espère pouvoir ouvrir à partir du 21-22. Voilà.
Eh bien, j'espère. Et puis, je voudrais rappeler que c'est important de continuer à aller au théâtre, d'aller au cinéma. L'art, c'est aussi une belle manière de créer du lien et de se sentir bien. Et en ce moment, ça me paraît encore plus important et je trouve très dommage qu'on ne le rappelle pas assez. On est un peu. Je sais que ces professions-là sont un petit peu en souffrance. Et c'est dommage parce qu'on a besoin d'art pour créer du lien et que la société aille mieux.
Puis on a besoin de rire, puis on a besoin de.
Et ben là, on
voir
arrive.
Du monde.
Merci, on arrive.
Alors, il y a un truc, hein, le rouge à lèvres, on peut l'employer autrement. Scarlett, dans Autant n'emporte le vent, elle se le met sur les joues pour. Elle s'en sert comme blush.
Oui.
Je suis une pro d'Autant n'emporte le vent.
Moi aussi. Alors, allons-y.
Alors, moi, je mets du mat, après, je l'absorbe avec du Kleenex, après, je le poudre.
Conseil de port de rouge à lèvres.
Et je garde le masque 10 jours.
Comme ça, tu récupères.
Merci, Trinidad. On retrouve Isabelle maintenant. Bonjour, Isabelle.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec
nous. Bonjour, vous. Oui. Du deuil, de la séparation.
Oui, on va. C'est le sujet du jour, absolument, Isabelle. Donc, vous êtes en couple depuis un an et demi, hein, c'est ça, avec quelqu'un qui a perdu sa compagne, qui était veuve quand vous l'avez rencontrée. Je crois qu'on a un petit problème de liaison avec Isabelle, donc on va essayer de la retrouver et on va revenir donc bien sûr avec vous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous avez envie de parler d'une. Alors on a parlé là pour l'instant surtout de séparation affective, mais on peut aussi parler de en amitié. Parfois il y a aussi des ruptures qui sont terribles. Il y a aussi des ruptures professionnelles qui peuvent être terribles, hein, quand on a travaillé par exemple pendant 15 ans avec quelqu'un et puis que la rupture a lieu, c'est aussi des changements de vie qui peuvent être très brutaux.
Un déménagement aussi, ça peut être violent. C'est le changement de cadre. Alors après, effectivement, il est amoureux, ou il est géographique, ou il est professionnel. C'est le changement de cadre et le changement de relation. On perd complètement ses repères, on ne sait plus à qui on va s'adresser, comment on va devoir s'adresser à une personne, de quelle manière, comment on doit se présenter. Finalement, quand on est... Mais même avec quelqu'un qu'on ne supporte plus du tout... Au moins, le cadre, il est posé. On ne se supporte pas. On sait qu'on ne va pas se dire bonjour le matin à la machine à café. On sait que le soir, on va s'éviter consciencieusement dans le couloir. C'est très bien. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, on doit se représenter. Donc déjà, d'une certaine manière, se dire, j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un, mais cette personne va aussi faire ma connaissance. Et il ne faut surtout pas que je lui donne l'image que l'autre avait. Donc là aussi, c'est réfléchir. En fait, on passe notre vie à réfléchir sur nous sans qu'on s'en rende vraiment compte. On est un peu obligé constamment de se remettre en cause, sans s'y épuiser, mais on est un peu obligé. Les ruptures en amitié, elles sont terribles.
Oui, je trouve qu'elles sont terribles. Je crois qu'on a retrouvé Isabelle.
Oui, excusez-moi.
Je vous en prie.
Voilà, je me suis mis en couple depuis un an et demi avec une jeune veuve. Je veux dire un jeune, parce que ça fait pas longtemps qu'il est veuf. Et ça va faire 2 ans. Et ça fait un an et demi que je suis avec lui, et quelquefois c'est pas facile parce que je vis la plupart du temps chez lui, mais il vit toujours dans sa maison, à elle. Il y a toujours les meubles, les photos, quelques photos que j'ai réussi à mettre un petit peu de côté pour essayer de me faire ma place. Mais il parle souvent d'elle, et j'ai toujours peur, il y a une sorte de jalousie alors que normalement je devrais pas être jalouse.
C'est compliqué parce que c'est une rivale hors d'atteinte.
Voilà, oui.
Donc c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas l'attaquer puisqu'elle est hors d'atteinte justement. Et en même temps, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a du tiers entre vous.
Elle est là et elle est là physiquement. Puisque monsieur se serait séparé de son ancienne compagne, on peut imaginer qu'il ait vidé la maison de tous les souvenirs, ou presque, ou qu'il soit déjà coincé dans un tiroir.
Là,
vous arrivez dans la vie de quelqu'un, enfin dans la vie de deux personnes même. Donc c'est vrai que pour lui c'est compliqué, mais pour vous aussi c'est très compliqué.
Voilà, et surtout qu'il était veuf depuis 8 mois.
Et donc, je vais
c'est
être
intéressant. Alors est-ce que je prends la place pour éviter qu'il soit tout seul, ou est-ce que il m'aime, je sais pas trop. Il me dit qu'il m'aime, mais par moments, j'ai peur d'être là pour pas qu'il soit tout seul.
Isabelle, ce que je viens d'entendre, c'est que vous réfléchissez par rapport à lui et pas par rapport à vous.
Exactement. Et ça, c'est important. Vous restez avec nous, Isabelle. On se retrouve dans un instant, un petit moment de pause et on va continuer à avancer avec vous.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Anne-Laure Buffet, thérapeute qui est avec nous et auteure de ce livre, Ces séparations qui nous font grandir, aux éditions Erol. Alors Isabelle, très justement, Anne-Laure vous faisait remarquer que vous parliez pour lui et non pas pour vous.
Oui, oui.
Et ça c'est quand même important parce que à la limite les questions que vous vous posez pour lui, vous pouvez les poser à lui, mais pas à nous.
Oui, mais je le lui pose, mais lui il me dit que ça a rien à voir, qu'il lui faut un peu de temps. Mais j'ai du mal à vraiment croire que ce soit pour moi. Voilà, qui reste.
Mais attendez, Isabelle. Il est possible qu'il vous dise la vérité, qu'il a besoin d'un peu de temps. C'est normal.
Oui, c'est normal. C'est... Ouais.
Et puis, pour lui, peut-être enlever tout de suite les photos, ce serait se sentir coupable vis-à-vis d'elle, etc. Et peut-être qu'il comprend pas assez parce que vous n'osez pas trop lui dire à quel point pour vous c'est compliqué parce que vous trouvez pas votre place. Vous voyez, les deux sont possibles. Et ça s'entrechoque. Et à ce moment-là, il y a que le compromis qui va permettre de résoudre le problème de votre couple.
Parce que quand on parle de partir en vacances et tout, j'ai toujours l'impression qu'on refait les mêmes voyages qu'avec elle.
Vous lui proposez une destination ou ça s'organise à deux?
Mais c'est vrai que bon, il a beaucoup voyagé, mais automatiquement il y a toujours un lien avec. Et je me dis que quand on part, en fait, on part à trois. Est-ce qu'il profite de ses vacances par rapport à moi, par rapport à nous? Ou alors, c'est les souvenirs qui sont là. Il va y avoir les deux, peut-être.
Vous savez, Isabelle, je crois aussi qu'il faut lui laisser une chose, en dehors du fait qu'il est veuf, c'est que vous l'avez rencontré, ben, il avait déjà vécu un certain nombre de choses, et peut-être qu'il a envie, au-delà de son veuvage, hein, au-delà de son couple précédent, de vous en montrer certaines, de vous en faire partager certaines. Alors, c'est certain que vous allez vous retrouver dans des endroits ou dans des situations qu'il a peut-être déjà vécues avant avec sa précédente femme, mais c'est à vous aussi d'investir le moment et peut-être de vous donner le droit de laisser partir cette femme. Oui, parce que vous la retenez d'une certaine manière, en vous comparant à elle et en craignant qu'elle soit plus importante. C'est deux histoires qui sont différentes, donc elle n'est pas plus importante ou moins importante. Elle est dans sa vie encore aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut accepter l'idée qu'elle sera jusqu'à la fin de la vie de votre compagnon, dans la vie de son compagnon d'une certaine manière, par la pensée, puis par l'attachement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas pour vous.
Combien de temps il est resté avec elle?
6 ans.
6 ans. Ils ont eu des enfants ensemble?
Non.
Bon. Donc, peut-être qu'elle a eu beaucoup d'importance parce que c'est des années qui durant lesquelles
il
s'est construit.
Il idéalise aussi. Il idéalise beaucoup la relation. J'ai des amis qui m'ont dit qu'il idéalisait.
Oui, mais ça c'est relativement fréquent. C'est une compensation qui permet de mieux vivre. De mieux faire son deuil, si je puis dire, pour reprendre l'expression dont on parlait tout à l'heure.
Et puis, vous l'avez rencontré, il était veuf depuis 6 mois, alors... Enfin, sans rentrer dans trop de détails, elle est décédée à la suite d'un accident...
D'un cancer.
Il doit encore avoir beaucoup de choses à accepter. La maladie, en l'occurrence, qui a emporté sa compagne...
Oui.
Et 6 mois. Alors bien sûr, hein, il y a pas de tableau de durée de temps à évaluer le veuvage ou le deuil. Mais 6 mois, même si lui allait en apparence très bien, il a encore des émotions forcément qui sont bouleversées et d'une certaine manière, même lui, ça doit être compliqué pour lui de se positionner par rapport à vous et de se positionner par rapport à elle et par rapport à l'image qu'il en garde. Mais à vous de trouver les réglages, à vous au pluriel de trouver des réglages dans votre histoire.
Alors, je crois que c'est important de revenir sur votre relation à tous les deux, Isabelle. Vous vous êtes rencontrés comment déjà?
Non, une soirée. C'était une soirée de musique.
Donc ça a été un moment assez fort. C'est quand même une rencontre un peu coup de foudre.
Mais non, parce que on s'est croisés, on ne s'est pas parlé de suite. Duré jusqu'à 1 ou 2 ans. Il m'a montré, il m'a parlé de ça de suite. Ce qui était dur au début, c'est encore
alors,
plus dur.
Donc tout de suite, il vous parle. Ok. Donc vous êtes sa confidente au départ. Hein. Vous êtes celle avec qui il peut parler. Donc vous voyez que déjà, il base la relation sur ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez accepté dès le départ d'être sa confidente et quelque part de lui permettre de maintenir un lien avec cette femme qui est décédée.
Oui.
Vous voyez, donc ça c'est important à comprendre, parce que la manière dont la relation s'installe, c'est quelque chose qui va rester tout au long de la relation.
D'accord, donc il continue dans le
Donc vous ne pouvez pas lui reprocher quelque chose qui vous a permis, quelque part, de lui mettre le grappin dessus. Excusez-moi, je fais exprès de l'humour.
Oui.
C'est juste... Oui. C'est pas... J'ai pas du tout prétendu que vous aviez eu cette attitude-là.
Oui.
Mais voyez ce que je veux dire. Donc comment peut-il comprendre aujourd'hui, si vous ne lui expliquez pas clairement, que vous n'en pouvez plus de cette ombre qui reste entre vous? Vous voyez, je crois qu'il...
Mais j'ai essayé. J'ai essayé, il me dit que c'est pas vrai. C'est moi qui... Voilà.
Peut-être que ça vaut le coup à ce moment-là d'aller parler avec une tierce personne pour qu'il l'entende mieux. Peut-être que de votre part, il ne peut plus l'entendre.
Oui, peut-être que je lui ai trop dit et que du coup, maintenant...
Vous faut aussi essayer de le croire.
Oui, c'est vrai, oui. Mais le fait qu'il garde les vêtements, qu'il garde sa maison,
je pense que c'est de la culpabilité. Elle est morte d'un cancer. Et très souvent, quand le conjoint ou la conjointe meurt d'un cancer et que l'autre reste en vie, il y a une sorte d'injustice qui se traduit par de la culpabilité si on n'arrive pas à faire un travail sur soi.
Sentiment d'impuissance aussi. Il n'a pas pu être plus fort que la maladie. L'amour n'était pas plus fort que la maladie. Mais, vous savez, encore une fois, c'est... votre histoire n'est pas l'histoire précédente. Laissez-le. C'est pas parce qu'il termine son histoire précédente terminée, c'est pas le juste mot, mais c'est pas parce qu'il est encore dans certains sentiments vis-à-vis de cette femme qu'il n'en a pas pour vous et qu'il vous ment. Mais ouais, il n'a pas seul, il n'a pas encore fini l'histoire.
Et puis dernier point sur lequel il faut que vous travailliez, Isabelle, pourquoi, alors que vous savez très bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne retournera pas avec elle. Hein,
oui.
Là-dessus,
oui.
Vous êtes sûr de gagner la partie. Pourquoi c'est si important pour vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à en sourire? Ça veut dire que ça renvoie à quelque chose chez vous qui est important à comprendre.
Mais je pense que c'est parce que je ne suis pas sûre de moi. Les relations d'avant, même s'il n'y a pas eu de décès et tout, je ne suis pas sûre de moi, quoi.
Mais faites attention à ce que les relations, vos relations précédentes, n'entachent pas celles-là parce qu'elles ont abîmé une confiance en vous.
Oui.
Je crois qu'il y a quelque chose à comprendre chez vous. Pourquoi vous avez besoin de donner autant de place et autant de force à cette rivale qui, quelque part, n'en est pas une quand même, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas vous le reprendre.
Oui, je pense que je me fais du tort à moi.
Et donc, essayez de comprendre de quoi ça parle de vous, là.
Vous avez peur d'être quitté? Vous avez peur qu'il vous abandonne?
Qu'il m'abandonne, qu'il trouve mieux, qu'il m'abandonne, oui.
Donc, c'est peut-être...
Que ce soit pas la bonne raison qu'il soit avec moi.
Donc, vous avez peur de ne pas être aimé pour vous-même, hein. Ça, vous l'avez dit, de toute façon, vous l'avez dit de manière très claire. Donc, cette peur de ne pas être aimé pour vous-même, c'est quand même quelque chose que vous pouvez travailler, de vous à vous, et non pas d'attendre des preuves qu'il vous a pourtant données.
Vous savez, Isabelle, et je pense que c'est valable pour tous les auditeurs, toutes les personnes qui ont peur d'être abandonnées, en amour, enfin, bref, qui ont peur d'être abandonnées, finissent d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, par le provoquer. Ah, et même s'il n'y a pas une rupture réelle, elle lasse l'autre parce qu'elle tombe dans une exigence que l'autre ne pourra jamais satisfaire. Il n'aura jamais les réponses suffisantes pour pallier votre exigence ou votre crainte ou pour vous rassurer suffisamment. Et Brigitte a parfaitement raison. Il faut avoir le courage, parce que c'est pas toujours évident d'aller en parler à quelqu'un, mais il y a aucune honte à avoir et de dire voilà, c'est mon parcours fait que ça a creusé une faille dans mon estime de moi et j'ai peur d'être à nouveau trahie, trompée.
En tout cas, vous avez peur de pas être aimée pour vous-même, c'est ce que vous avez dit et je crois que c'est ce point-là surtout sur lequel il faut travailler. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tellement intéressant que vous l'avez rencontré et vous l'avez écouté pour plutôt que ils vous séduisent, vous l'avez écouté, vous voyez bien comment vous vous mettez en retrait, quelque part. Et c'est ça qu'il faut que vous travaillez, et c'est ça qui va vous aider à dépasser la difficulté que vous rencontrez, qui est réelle. Hein. On a bien compris que c'était pas forcément toujours drôle d'être face à la photo de cette femme qui, quelque part, n'est plus là, mais est encore là. Merci Isabelle, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci,
on va continuer, bien sûr, avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826-300-300. Mais tout de suite, la devinette du jour, Anne-Laure Buffet. C'est un jeune garçon qui demande à sa maman si les dindes ont des seins. Alors, la mère, elle est plutôt étonnée, hein, et elle lui demande pourquoi cette question. Alors, pourquoi ce petit garçon pose cette question? C'est la réponse que vous allez me donner après les infos, bien sûr.
Anne-Laure Buffet.
Allez, on se retrouve dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Anne-Laure Buffet, thérapeute, qui va déjà nous donner la réponse à la devinette. Ce jeune garçon qui demande à sa maman si les dindes ont des seins. Alors pourquoi pose-t-il cette question?
Mais qu'est-ce que c'est que cette injonction de croire que je vais te donner une réponse à la devinette? Je ne sais pas.
Bon, et ben c'est pas grave.
Non, j'en suis à dinde ou dindon, je ne sais plus. Donc
Et ben tout simplement, voilà ce que répond le petit garçon à sa maman. Bah, papa, il a dit à la femme de ménage qu'elle avait de plus beaux seins que sa dinde. Voilà. Voilà, le drame familial qui commence, et peut-être que la maman ne va pas tarder à nous appeler.
La journée ne va pas bien se passer.
On peut l'imaginer. Bon, en tout cas, ces séparations qui nous font grandir, c'est un peu le fil rouge de cette émission aujourd'hui, et c'est le titre du livre de Anne-Laure Buffet qui est sorti aux éditions Erol, avec, je le dis, hein, beaucoup de choses très concrètes qui permettent de travailler sur soi, de se sentir mieux, parce qu'après tout, les séparations, qu'elles soient encore, on l'a dit, hein, d'ordre affectif, évidemment, on parle plus d'ordre affectif dans cette émission, ou pas, c'est toujours un moment de se pencher sur soi pour comprendre comment on traverse ça, comment on le vit. Chloé est avec nous. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Chloé.
Avec plaisir.
Donc vous avez perdu votre fils, c'est ça?
C'est ça. Il y a un an et demi maintenant, j'ai accouché de jumeaux et j'ai accouché parce que nous avons appris le jour de mon échographie du 8e mois que l'un de mes enfants était décédé. Voilà. Donc on m'a opéré d'urgence pour sauver le deuxième.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et puis, 8 mois plus tard, j'ai perdu mon papa. À son tour, lui aussi est parti après un cancer. Ça faisait 2 ans qu'il se battait contre le cancer. Et puis, au bout de 2 ans, je pense qu'il y a eu, qu'il devait y avoir déjà le coronavirus qui traînait. Il a eu beaucoup de symptômes qu'aujourd'hui on connaît très bien. Et donc, je pense que le cancer plus le corona, c'est ça qui l'a fait partir.
Et vous, évidemment, ces 8 mois, ça crée une synchronicité dans votre tête, j'imagine.
Bien sûr, parce que d'un côté, pour je pense que toute femme ayant perdu un enfant comprendra mes mots. C'est vrai que le fait de perdre son bébé, c'est perdre une partie de soi réellement, c'est perdre un membre du corps, perdre son futur en fait. Et puis perdre son père 8 mois plus tard, j'ai perdu tout mon passé à ce moment-là, la personne qui était mon modèle, mon pilier, à qui je me raccrochais. Donc c'est un peu, j'ai perdu en l'espace de 8 mois mes deux pôles opposés absolument importants dans la vie d'une femme.
Voilà. Mais c'est bien ce que vous dites, Chloé, parce que là, quelque part, vous mettez du sens à ce qui vous est arrivé. Vous avez eu le sentiment, j'imagine, donc, de perdre totalement l'équilibre.
Complètement, pas complètement. Je ne marchais plus sur un sol dur. Je sais même pas si j'étais réellement existante en fait. Pendant presque un an, ça a été. J'étais spectatrice un peu de ce qui se passait puisque je n'avais rien, plus rien sur quoi m'appuyer. J'avais mon fils en fait, mon deuxième fils qui est resté. C'est lui clairement qui m'a sauvée en fait de tout ça.
C'est peut-être vous. C'est peut-être vous avant lui. C'est peut-être vous qui vous êtes sauvée pour lui, pour
vous aviez
son père.
Vous aviez une raison de continuer à vivre, Chloé.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait... C'était même pas une raison, c'était une nécessité. J'ai vécu les premiers mois de maternité comme une réelle nécessité, mais pour lui comme pour moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre de m'écrouler parce que lui avait besoin d'une mère, il avait besoin de voilà, de cet appui-là.
Alors, vous voyez, Chloé, ce que vous venez de dire me paraît essentiel, et je vais essayer de le dire avec mes mots à moi pour que vous compreniez et que tout le monde comprenne bien. Perdre son père, c'est perdre son statut de petite fille, définitivement. Et quelque part, on devrait d'abord vivre pour soi, et puis ensuite s'occuper des autres qu'on aime, des autres parce qu'on aime l'humanité, ou qu'importe. Mais on devrait d'abord vivre pour soi. Et dans ce que vous dites, vous voyez, c'est encore un peu la petite fille qui parle.
Entièrement, complètement, et j'en suis complètement consciente. Vous savez, toute ma vie, je me suis préparée au départ de mon père. Je me souviens, je devais avoir à peu près 8 ans, quand j'ai fait le rêve de tuer mon père. Comme beaucoup d'enfants, on tue nos parents dans nos rêves. Le début de l'émancipation, je dirais. J'ai fait ce rêve-là qui m'a particulièrement choquée, et j'ai réalisé que mon père pouvait mourir. Et donc, toute ma vie, je me suis préparée à son départ. Mais préparer, c'est de façon même un peu glauque, hein. C'est-à-dire que toutes les nuits, tous les soirs avant de m'endormir, pratiquement tous les soirs, je m'imaginais le jour de sa mort ou le jour de ses funérailles, ce que j'allais dire, tout ça. Souvent, je pleurais même. Et c'était une façon pour moi de me préparer à ce départ-là. C'était impossible pour moi que mon père parte. Il faut bien comprendre que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour moi, évidemment. J'ai toujours fait les choses que j'aimais moi. Mon but, mon métier, ma passion, tout ça, ça venait de moi. Mais la façon dont j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour rendre fier mon père. Je l'ai fait de cette façon-là pour le rendre fier. Je n'ai jamais lâché. J'ai toujours été battante. J'ai toujours fait les choses correctement, bien, tout ça, voilà. Et c'est vrai que lorsqu'il est parti, je me suis retrouvée en effet comme cette petite fille qui du coup n'avait plus de réel but dans la vie. Voilà,
bien sûr.
C'est ça, plus de rock.
Mais voyez, Chloé, c'est très fort ce que vous nous livrez, et je vous en remercie. Mais en même temps, c'est assez... Enfin, je veux dire, c'est pas ce que diraient toutes les femmes. C'est très fort, ce rapport à la culpabilité, peut-être, d'avoir rêvé de la mort de son père, l'envie de tout le temps faire les choses pour que votre père soit fier. C'est quand même assez, j'allais dire, un peu marginal quand même. On n'entendrait pas toutes les femmes raconter ça comme ça, avec autant de force.
Donc, mais c'est parce que ces femmes-là n'ont pas connu mon père.
j'entends bien. Mais voyez, ça parle de vous. C'est votre histoire que vous êtes en train de nous offrir, et je vous en remercie. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser pour devenir une femme en part entière, qui continuera à aimer la petite fille qui est en vous, bien sûr. Mais c'est plus elle qui doit parler maintenant.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis que mon nouveau but, entre guillemets, c'est d'être la personne que mon père a été pour moi, de l'être pour mon fils, en fait. D'être cette référence qu'il a pu être dans ma vie.
Et alors, qu'est-ce que vous faites pour vous ?
Oui, ce que j'allais dire, Chloé, c'est... bonjour, Chloé. C'est que... Faites attention à ne pas faire trop porter à votre fils. Ce que j'entends, c'est que vous avez une admiration ou un désir de plaire à votre père sans borne. Et je vais pas dire tant mieux. Je vais pas dire tant pis, hein, mais je vais pas dire tant mieux. Parce que vous parlez de lui, vous parlez de votre fils, vous parlez pas de vous.
Ni de votre mère, d'ailleurs.
Hein. Non, ni du père de votre fils. C'est, et j'imagine quand même que, comme beaucoup d'enfants, votre fils a un père. Oui. Mais donc, vous parlez pas de vous, vous seul, et vous avec le père de votre enfant, ni de votre enfant. Il y a une... Brigitte Lahaye vous l'a très bien dit, vous êtes la fille de votre père, mais vous n'êtes pas que ça. Il est vraiment temps pour vous que vous l'intégriez, parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est à vouloir être pour votre fils ce que votre père a été pour vous, vous allez empêcher votre fils de devenir un homme. Il va être un homme adulte, hein.
On a le temps, hein. Vous avez le temps d'y travailler.
Mais l'empêchement n'empêche peut-être là. C'est-à-dire qu'il va vouloir tellement être soit dans la recherche de plaisir pour vous, soit au contraire, ce qui serait terrible, pour vous vouloir vous fuir pour ne pas être trop dépendant, qu'il n'arrivera pas à être lui. Et je ne connais pas votre âge, mais enfin, à vous entendre, je ne pense pas que vous ayez atteint un âge canonique. Vous avez largement, largement le droit de vivre et la possibilité de vivre pour vous et votre fils et votre compagnon et votre entourage, de manière générale, en bénéficiera d'autant plus que vous saurez pour qui vous faites les choses et comment vous faites les choses. Vous avez le droit d'être fier pour vous, vous avez le droit de réussir pour vous, vous avez le droit de vous planter pour vous. C'est comme l'échec n'est pas, ou l'erreur n'est pas un drame, mais vous avez le droit pour vous. C'est pas parce que vous feriez les choses pour vous que vous deviendriez un monstre d'égoïsme, bien au contraire. Alors c'est vrai que c'est un peu radical de vous dire attention, vous allez empêcher votre fils de devenir un homme.
Non, mais je l'entends. Voilà.
Mais c'est dans le modèle que l'on propose et que l'on impose parfois à nos enfants. Hein,
comme on peut se permettre de dire, Chloé, que peut-être que votre père vous a un peu étouffé.
Alors vraiment, absolument pas. J'ai peut-être pas eu les bons mots en fait.
Non, mais je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il vous a étouffé d'une manière négative, mais en tout cas, il a mis la barre très haut.
Il a peut-être pas réalisé à quel point vous souhaitiez lui plaire, le satisfaire, qu'il soit fier de vous. Et il l'a peut-être pas remarqué. Donc, vous savez, dans tout ce qu'on vit, dans toutes nos relations, c'est un peu facile de tenter de les décrypter ou de les comprendre à froid. Mais on agit aussi par amour, par spontanéité, par colère, par voilà. Et sans doute que. Il était simplement heureux et il vous sentait bien et il n'a pas réalisé que vous faisiez les choses plus pour lui ou d'abord pour lui avant de les faire pour vous. Donc il n'y a pas à culpabiliser ou à blâmer qui que ce soit. Il y a à constater une situation que vous nous proposez, que vous nous apportez aujourd'hui, de dire autant il est normal de s'investir pleinement en tant que parent pour ses enfants, sinon pourquoi vouloir avoir des enfants ? Autant entre s'investir pour eux ou leur faire porter un poids, c'est-à-dire... Vouloir en tout cas, être quelqu'un d'autre, c'est un peu trop.
En tout cas, Chloé, vous ne nous avez pas parlé non plus de votre mère, et je crois que ça c'est important aussi, ça c'est pas anodin. Vous pouvez y réfléchir. Et puis, moi j'ai tout juste envie de vous dire de réfléchir à ce qui aurait pu se passer quand vous aviez 8 mois ou 8 ans. Il y aura peut-être quelque chose comme ça qui donnera du sens.
À 8 ans, elle a rêvé qu'elle tuait son père.
Ah tiens. Oui, vous avez raison, vous avez bien écouté. Donc, voyez, cette répétition de 8 me paraît intéressante et c'est peut-être ça tout le sens de votre histoire.
Ah, je n'avais pas pensé à ça du tout.
Il y a 8 mois de grossesse et 8 mois après le décès de votre père.
Et 8 c'est ans, vrai. À 8 ans, vous... Voilà, alors réfléchissez peut-être que vous-même, à 8 mois, il y a quelque chose, si vous avez encore votre mère, vous pouvez lui poser la question.
Oui. Enfin, Vous voyez,
il y a peut-être quelque chose à comprendre qui va donner beaucoup de sens à votre histoire. Et c'est le sens que vous allez y mettre qui vous aidera à avancer. Nous, on est juste là pour allumer la lumière. Après, c'est vous qui voyez les choses. D'accord ?
D'accord.
Merci Chloé, merci beaucoup.
Je vous remercie. Je vous passez une très bonne émission.
Merci. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Anne-Laure Buffet qui est avec nous, on évoque les deuils, les séparations. Et vous pouvez bien sûr vous aussi réagir, venir nous raconter un moment difficile que vous avez peut-être bien ou pas bien traversé au 0826 300 300. Demain, on va aborder un sujet assez particulier. On sera avec Ugraine. Ugraine est gynécologue, obstétricien. Il a beaucoup travaillé sur les traitements de l'infertilité. Et c'est son désir à lui d'aborder ce sujet. On va parler de la vie intra-utérine. Qu'est-ce qui se passe pendant ces, en principe, 9 mois de grossesse et non pas 8, comme on vient de l'entendre avec Chloé. Et c'est un sujet que je trouve intéressant, qu'on n'a d'ailleurs jamais abordé dans cette émission, qui pourtant dure déjà depuis la 20e année, vous imaginez. Et je trouve que c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Ugraine a beaucoup étudié cette question.
Et puis on en dit beaucoup, mais est-ce que tout ce qu'on dit est vrai, ça m'étonnerait.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous,
Anne-Laure ? De la vie intra-utérine ?
D'abord, vous vous en souvenez pas.
De la mienne, non.
Moi non plus.
Pas du tout.
Bon. Donc tout va bien. Je me disais que j'avais peut-être perdu la mémoire. Non, je ne suis pas encore
Alzheimer.
Non,
tout va bien. Non, je ne m'en souviens pas du tout. ma vue... Ma vie intra-utérine était passionnante, très certainement. Ce que je sais, c'est que d'après, c'était il y a 50 ans, mais d'après ce qu'il s'est dit, je suis née avec 12 jours de retard, parce que mon papa était malade.
Vous étiez trop bien.
Non, mon père était malade, et apparemment, ça aurait bloqué. J'aurais décidé de me dire, il faut attendre que mon père, alors je pense que ce sont des croyances de maman, mais de me dire, il faut être sûr que papa ira bien, je les laisse tranquilles et je naîtrai plus tard.
Voilà. Bon, en tout cas, c'était déjà à l'époque, vous aviez le sens des autres.
J'ai commencé très tôt.
Vous vous êtes dit que votre maman ne pouvait pas s'occuper de vous et de votre papa, donc vous avez attendu patiemment.
Le sens des autres ou le sens de moi, un sens extrêmement égoïste. Oh là, je sortirai quand on pourra se consacrer à moi. Donc...
oui, comme quoi on peut toujours mettre du sens dans les deux sens. Hein,
toujours.
C'est toujours possible. Bref, allez, on revient sur le sujet du jour, les séparations, les deuils avec Anthony. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité.
Bonjour Anthony.
Anne-Laure Buffet qui est avec nous. Donc vous avez perdu votre beau-père, hein, c'est bien ça?
Tout à fait, tout à fait. Bon, ça fait un petit moment, ça fait à peu près 3 ans, mais ça poursuit toujours un petit peu la vie. Bon, on est très symbolique, hein, moi et ma femme. Voilà, avoir des images ou des belles choses un peu partout, d'avoir une belle nostalgie sur sa personne.
Donc vous étiez, j'imagine, assez proche de cet homme.
Ben c'est vrai que moi j'ai un côté un petit peu artiste, j'aime beaucoup la poésie, et c'était un grand peintre, style Gauguin. Et c'est vrai qu'on se retrouvait beaucoup, il avait 10 vies en une vie, il fait partie d'une génération. Bon, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu des choses qu'on peut pas même pas comprendre dans nos pires et dans nos meilleurs moments, à des époques, vous imaginez même pas toutes les histoires qu'il m'a racontées à l'époque où le frigo n'existait pas, où il fallait qu'il livre avec une charrette des pains de glace pour les poissonniers. Enfin, ça c'est qu'une histoire parmi tant d'autres. C'est un livre ouvert et une belle personne qui est parti, qu'il soit connu ou méconnu, peu importe, c'est l'homme à travers l'artiste, au final, qui a passionné toute une famille, qui a passionné.
Oui, mais on l'entend, c'était votre héros, et perdre héros, c'est un deuil important, bien sûr.
Exactement.
Mais vous avez dit belle nostalgie. Donc il y a quelque chose quand même de très apaisé dans ce que vous apportez.
Malgré que j'introvertisse vachement les choses. Oui, j'introvertis beaucoup, mais c'est vrai que c'est devenu une nostalgie. Moi, j'ai vu très vite, j'ai essayé d'être fort pour ma femme, à prendre sur moi. Mais bon, ça s'est révélé un peu différemment. Pendant la première année, j'ai eu... je sais pas si on peut appeler ça un trouble érectile, parce qu'au final, bon, tout se passait bien à ce niveau-là, mais quand j'avais mon orgasme, je ne ressentais plus rien. Comme si on m'avait coupé...
De vos émotions, oui.
Exactement.
Mais comme certainement, vous n'avez pas réellement pu exprimer votre tristesse. Vous êtes trop occupé presque de votre femme. Mais je pense que c'est certainement parce que c'était plus douloureux encore que vous ne vouliez vous l'avouer, peut-être.
Oui, je pense que j'ai vraiment... c'est plus profond. Et mais après, peu importe la force qu'on a pour la personne, je pense qu'il y a des personnes qui marquent plus que d'autres. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain.
Oui, bien sûr. Mais ce qui est important peut-être, c'est de réaliser qu'il y a encore, quelque chose qui n'est pas tout à fait élaboré. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être là où on peut vous aider. Restez avec nous, Anthony, on se retrouve dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Anne-Laure Buffet est avec moi, thérapeute. On évoque les deuils, tout particulièrement évidemment avec vous, Anthony, puisque vous avez perdu votre beau-père il y a 3 ans. Suite à quoi, vous avez eu même une perte de plaisir. Hein, donc On pourrait dire dans ces cas-là, d'ailleurs, hein, une perte de goût de vivre. Hein,
C'est un peu vrai, oui. C'est un peu vrai.
Sur un plan symbolique, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Donc c'est important aussi de comprendre, Anthony, que ce beau-père, même si ce n'est pas votre père, c'est une image d'un homme, enfin, de l'archétype du père, voyez. Et quelque part, vous l'aviez certainement beaucoup investi. Et on peut imaginer que c'était peut-être pas si facile que ça d'investir votre père sur le plan de l'image archétypale du héros.
Après, je vous avoue que moi, personnellement, je n'ai pas eu vraiment un père. C'est-à-dire dans le sens où je n'avais pas ses conseils, toute cette passion,
c'est ça, oui.
Cette relation-là. Donc c'est vrai que il y a trois ans, à la recherche toujours un peu d'un père. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 35 ans, je suis père de trois enfants, j'ai évolué, j'ai pris en maturité, mais j'étais encore, je pense que quand même, je le serai toujours un petit peu dans cette recherche d'un père, d'un repère.
Oui. Mais vous voyez, c'est important parce voilà. Que du coup, quand vous perdez ce beau-père, vous perdez deux pères quelque part.
Oui.
Et c'est pour ça que ça a été peut-être encore plus violent. Et vous ne vous êtes pas autorisé à vous occuper vraiment de vous, puisque vous vouliez vous occuper de votre femme, qui évidemment, elle, perdait son père.
Exactement. On a été là jusqu'au bout, même dans ces derniers instants, je lui ai dit un grand « on t'aime ». Et ce qui est important, c'est que l'esprit parte en paix. Et c'est très important, on ne se rend pas compte à quel point l'apaisement est très très important. Moi, excusez-moi, c'est une parenthèse vraiment un peu ridicule, je dirais, comparée à la mort. Mais, alors, pas plus tard que hier soir, c'était les 18 ans de ma grande. Et malheureusement, j'ai fait la bêtise de boire un peu trop. Eh bien, écoutez, je suis tombé un peu dans un sort de coma. J'ai pas l'habitude, je suis quelqu'un de très innocent et très naïf. Hein, donc, je vis les choses vraiment dans l'émotion. La plus naïve, j'ai eu une enfance un peu particulière. Et on se rend compte au final que la mort, c'est un grand apaisement. Il n'y a pas de souffrance. On a tendance à croire que, est-ce qu'il a souffert ? Forcément, quand on vit un accident, là, on va souffrir avant de partir. Mais la plupart du temps, je pense qu'il n'y a pas... il faut vraiment se rendre compte qu'il ne faut pas avoir si peur de ça. Voilà, c'est un message important, parce qu'on a tendance à en faire, c'est vrai, on en fait
énormes montagnes. Quand vous dites de ça, vous voulez dire de la mort. On ne devrait pas avoir si peur de la mort, c'est ce que vous voulez dire.
Non, c'est l'être qui n'est plus là, c'est difficile pour ceux qui restent, tout le monde le dit, mais au final, tout le monde s'oublie, on s'oublie tous. Sauf ceux qui font les arbres généalogiques, peut-être. Hein. Mais au final, il n'y a pas besoin de souffrir autant. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à vachement aussi introvertir. Parce qu'au final, j'ai relativisé tout de suite. C'est-à-dire que, à quoi ça sert de souffrir, au final? C'est vrai, les personnes qui restent, ils vont souffrir énormément. Pourquoi ne pas tout de suite dire « c'était quelqu'un de formidable ». Il a vécu une belle vie, ou il a vécu, une vie différente, comme il pouvait. Et si on croit à autre chose dans la vie, bonne continuation. Sinon, on peut aussi dire que le néant existe. On peut avoir cette notion du néant. On n'est pas obligé. Ou une énergie qui est vitale, qui est dans l'atmosphère.
Oui, ce que vous dites, c'est une forme de spiritualité bouddhiste, et qui est tout à fait entendable, bien sûr, qui est pas très répandue, surtout en ce moment, mais qui est tout à fait entendable, bien sûr.
Dites-moi, vous avez été un jeune papa ?
Oui, en fait, je triche un peu, je suis beau papa. Ma femme a eu ma grande, pour moi, ma grande, à l'âge de 20 ans, elle a eu jeune. Et j'ai récolté le fruit à l'âge de ses 8 ans.
Donc vous êtes un beau-père.
Exactement. Mmh. Exactement. C'est vrai qu'il y a un peu des mélanges de psycho- psychologiquement de situation, parce que moi j'ai en plus une enfance très compliqué.
Voilà, on l'a compris, bien sûr. Voilà. Alors, Anthony, est-ce que vous faites le lien, parce que vous l'avez fait dans votre témoignage, donc je me permets de vous le signaler, est-ce que vous faites le lien entre la mort et l'alcoolisme?
Tout à fait, parce que c'est vraiment l'esprit n'est plus là. C'est ce que j'ai ressenti. En fait, en me réveillant, j'ai senti beaucoup d'amour. Mes amis ont pris soin de moi. Mais par contre, on n'est plus là. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça la mort? Est-ce que c'est ça, cet esprit qui est totalement apaisé, qui n'a plus conscience de qui il est vraiment, mais qui est, il n'y a pas de souffrance, puisque c'est vraiment, on est dans un état de, voilà. Il y a, pendant ce petit coma, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, et ben, j'ai ressenti, un calme.
Et donc, c'est la première fois que ça vous est arrivé. Donc, c'est une expérience assez initiatique, hein, semble-t-il. Et pourquoi vous avez autant bu
18 ans de sa fille.
Oui, bien sûr, mais ça...
C'est ça.
Mais
il
ne
fallait pas se mettre autant aussi loin. Mais je pense que c'est aussi un peu la frustration du quotidien, l'envie de danser, l'envie de sentir vivant. Mais bon, après, je ne connaissais pas mes limites et j'ai bu plus que d'habitude.
D'accord. Donc, pour vous sentir vivant, vous avez eu une période, une sorte de sensation initiatique de la mort. C'est intéressant, hein.
C'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est un peu particulier.
Vous êtes donc un jeune beau-père bien en vie.
Oui, un peu foufou de faire ça le jour de ses 18 ans. Bon, je me suis beaucoup excusé, mais j'ai ressenti beaucoup d'amour et beaucoup, on a pris beaucoup soin de moi. Voilà, pour ne pas que je bascule.
Anthony,
voilà.
Vous en avez fait quelque chose. Mmh. C'est ça qui est bien, même si c'était pas une. C'est pas à refaire, hein.
Mais... Vous recommencerez pas, hein.
Ah non, ça c'est certain. Je pense que quand ça arrive, on se calme tout de suite et on prend les bonnes décisions. Ça fait grandir aussi. Hein.
Voilà.
Ça fait grandir aussi.
Vous en avez fait quelque chose de positif pour vous et certainement aussi pour votre entourage, d'autant que vous vous êtes excusé.
Exactement. Et pour en revenir très brièvement à mon beau-père, on a fait avec ma femme un tatouage en commun, une belle étoile, parce que ce soir-là, lors de son départ, on a vu une seule étoile dans le ciel de Saint-Martin, c'était dans les îles. Et voilà, c'était juste... un témoignage rempli d'amour, parce que au final, ça restera toujours de l'amour et il faut célébrer la vie.
Mais ça c'est essentiel.
Et ne pas célébrer la mort.
C'est essentiel ce que vous dites, Anthony. Et je trouve qu'on est dans une société qui manque justement de rituels. Et ce que vous racontez, c'est un rituel. De même que très souvent, on plantait un arbre, enfin un arbuste plus exactement, à la naissance d'un enfant. Il y avait des tas de choses comme ça avant qui se marquaient. Et ce tatouage, c'est un rituel. Donc c'est très fort.
Et il y a beaucoup de rituels qu'on a arrêtés au nom du « Oh, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, tu ne vas pas croire à ça », alors que c'est important. On a besoin de certaines croyances, justement.
Et oui, le bien, le mal, et trouver sa voie, trouver son destin. Après, je ne sais pas si on y trouve forcément une raison de vivre, une raison d'être, mais moi, c'est ce que je crois. Je crois à la chance, je crois à ces petits anges qui nous protègent. Je ne suis pas forcément attaché à une religion parce que je trouve qu'elles sont toutes belles. Il y a du bien dans tout, il n'y a pas forcément du mal dans tout. C'est ce qu'on en fait. Et en fait, il faut croire en soi, il faut projeter de la vie. On le dit très souvent, savoure, profite. Mais en fait, on est quand même vachement pris dans nos vies, dans nos boulots, c'est difficile.
Mais vous savez, Anthony,
il faut profiter.
C'est parfois les personnes qui sont athées, hein, qui sont plus accrochées à des croyances personnelles. Alors, ne soyons pas, ne jugeons personne et laissons à chacun sa façon, le sens qu'il a envie de donner à sa vie. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas, Anthony. Merci à vous.
Merci à vous.
Et on va passer au Love Conseil, si vous voulez bien, Anne-Laure Buffet. Et oui, on va parler des 5 A. Alors les 5 A, c'est très intéressant parce que vous auriez pu dire amour quand même dans cette émission, ou Anne. Pourquoi pas
Anne, oui, aussi.
N'est-ce pas? En fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait, on se sent aimé quand on reçoit ces 5 A, je vais évidemment les donner, hein, et c'est intéressant parce que chacun d'entre nous peut, en écoutant ce Love Conseil, faire le bilan si, avec son partenaire, il se sent vraiment aimé. Donc les 5 A, c'est
écoute,
quoi?
Je ferme les yeux.
Attention, acceptation, appréciation, affection. Et autorisation. Alors, je vais les développer, évidemment. Hein. Attention, bah, c'est parce qu'on a conscience du lien qui existe entre toutes choses et donc entre nous, évidemment. L'acceptation, bah, c'est prononcer un oui enthousiaste par rapport à la relation qu'on est en train de vivre. L'appréciation, eh bien, c'est adopter une attitude, c'est quand on se sent apprécié, évidemment, que l'autre a une attitude plutôt de bienveillance, voire de gratitude vis-à-vis de nous. Alors l'affection, on aurait pu dire l'amour, hein, c'est évidemment quelque chose qui fait que on a de l'affection pour l'autre. Et puis l'autorisation, eh bien, c'est se sentir le droit de vivre un peu librement, sans un contrôle excessif de notre partenaire. Donc là, on est réellement, on se sent aimé quand ces 5 A sont respectés. C'est joli, non?
Je rajouterais, pour rester dans le A, un 6e,
si
c'est l'autonomie. Ça commence par A.
Oui, mais c'est aussi l'autorisation.
Ah ouais,
enfin, on va dans le même sens. Mais pourquoi pas l'autonomie plutôt que l'autorisation, évidemment. On va continuer avec Anne qui est avec nous. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à vos invités.
Bonjour Anne, c'est un joli prénom.
C'est un très joli prénom, et encore plus quand il est associé à l'or. N'est-ce pas, Anne-Laure Buffet?
Bonjour.
Alors Anne, vous avez vous aussi envie de parler du deuil, hein, du vrai,
oui,
malheureusement.
Oui, oui, malheureusement. Moi j'ai perdu ma fille de 18 ans brutalement. Et en fait, le témoignage que je peux apporter, c'est que ce qui m'a aidée, c'est ma spiritualité. Et ça a été quelque chose de très très important pour avancer.
Bien sûr.
Voilà.
C'est parce que ça donne du sens, hein, quand on croit à rien, c'est l'absurde est difficile.
Tout à fait. Après, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai communiqué avec ma fille pendant un an et demi la nuit. C'est arrivé un soir comme ça. Donc ça, ben, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi je l'ai vécu et j'ai eu des messages. Donc ça m'a boosté, ça m'a aidé à avancer.
Mm-hmm.
Voilà.
Et vous avez envie de nous en dire plus?
Oui, si je peux, bien sûr.
Bah, je pense que ça intéresse beaucoup de personnes qui nous écoutent, bien sûr.
Oui. En fait, quelques temps avant son départ, j'ai acheté un livre d'un gars qui s'appelle Rénal Roussel, qui communique avec les défunts, mais je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et puis, on m'avait offert le livre de la vie et de la mort des Tibétains.
Mmh. Mais elle était pas malade, votre fille?
Non, du tout.
D'accord, donc c'est vraiment le hasard, comme on dit.
Oui, entre guillemets, qui a fait que j'ai eu ces livres entre mes mains et j'ai toujours été intéressée par l'au-delà, ce qu'il y avait après. Et donc j'ai bouquiné. Donc ma fille décède. Et ma seconde fille m'appelle, elle habitait sur Aix à l'époque. Et elle me dit, maman, je vous ai pris des places avec papa. Il y a un monsieur qui passe à Aix, qui communique avec les défunts. Je vous ai pris des places. Et là, je lui dis comment il s'appelle. Et c'était le monsieur dont j'avais acheté le livre quelque temps avant. Comme par hasard. Donc, on a eu vraiment, avec ce monsieur-là, qui est très sérieux, un contact. Mmh. Ma fille est venue, la première chose qu'elle a dit, elle a dit « Mais pourquoi vous avez fait tant de kilomètres pour venir me voir alors que je passe en conférence à côté de chez vous ? Vous habitez où ?» Et en fait, il passait à une demi-heure de la maison. Donc déjà, c'est des choses qui vous font encore plus croire, enfin pour ma part, hein, qu'il y a quelque chose. Voilà. Et puis après, ben, il y a eu des odeurs dans la maison, son parfum, son téléphone qui sonnait, il n'y avait pas d'appel. Il y a eu plein de petits signes comme ça. Et puis une nuit, ben, son âme est venue et m'a parlé, m'a demandé d'écrire. Et donc là, j'ai commencé à écrire et elle me répondait. Et ça, ça a duré un an et demi. Et ça, ça m'a donné une force pas possible. D'autant plus que son papa, lui, était complètement anéanti.
Et ça a pu aider votre mari ?
Il était à la fois content pour moi, mais il avait une frustration, je pense. Bon, il avait déjà eu une frustration parce qu'il n'était pas arrivé à la sauver. Et donc, je veux dire, je pense qu'il avait une frustration quand il me disait « tu as de la chance ». Il aurait bien aimé, je pense.
Et il n'a pas adhéré à ce que vous lui racontiez.
Si, il écoutait, oui, parce qu'il était assez ouvert. Oui, oui, puis maintenant, il est passeur d'âme, donc avec le temps, vous voyez les choses. Et non, c'est... Mais je pense que c'était trop violent pour lui. Et puis après, on vit pas tous le deuil de la même façon, quoi. Non,
absolument, chacun fait comme il peut. En tout cas, ce qui est beau dans votre témoignage, c'est que vous en avez fait quelque chose de ce deuil.
Ah ben, ça m'a donné une force. Invraisemblable. Alors après, j'ai eu un petit-fils un mois après. Donc là aussi, il y a la vie qui est arrivée. Dans une grande tristesse, puisque la sœur était triste. Et ça, j'ai pas voulu que ce petit soit trop dans la tristesse. Donc, pour moi, ça a été un moment pour mettre de la joie avec ce petit, malgré la douleur.
Et puis, votre mari aussi, on a fait quelque chose, puisque vous dites qu'il est passeur d'âme maintenant.
Oui, mais il a mis le temps, il a mis 13 ans quand même. Il a mis déjà 8 ans ou 9 ans pour pouvoir être vraiment plus dans la dépression et mal. Mais bon, il avait quelque chose déjà au départ, donc il avait du magnétisme, donc c'est vrai qu'il lui fallait ce temps pour pouvoir passer à autre chose, quoi, je pense.
C'est là où vous avez, entre autres, parfaitement raison en disant que on vit tous un deuil différemment, puisque tout à l'heure c'est un peu ce qu'on évoquait. Il n'y a pas de temporalité. On peut pas dire bon ça va, ça fait un an, ça fait 6 mois, ça fait 10 ans. Tu peux passer à autre chose. Ce que l'on ressent intimement nous appartient et personne d'autre que nous-mêmes est en droit d'évaluer la profondeur de ce sentiment et en quoi d'ailleurs il peut nous empêcher ou nous permettre de vivre autre chose. Donc c'est vrai que être aux côtés de quelqu'un qui est dans la dépression suite à un deuil, c'est pas forcément évident, loin de là. Mais c'était aussi son parcours à lui.
Absolument.
Il faut respecter, surtout pas juger. Moi, on s'est séparés 2 ans après, mais je l'ai aidé tout le temps. Chaque fois qu'il avait besoin de parler, j'étais là. Et je pense que c'est important de pas, surtout, ne pas juger, quoi. Parce que on peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. C'est pas possible.
En tout cas, ce qu'on entend, Anne, c'est qu'il y a beaucoup d'amour dans votre cœur et que vous avez su, malgré un deuil, le deuil le plus difficile, perdre son enfant, c'est le deuil le plus difficile, bien, au lieu de vous fermer, vous vous êtes ouverte. C'est beau à entendre. Merci beaucoup, en tout cas.
Je peux dire aussi que ce qui m'a aidé, c'est le yoga, la méditation. Ça m'a énormément aidé.
Ben c'est des choses qui touchent la spiritualité, évidemment. Évidemment. Oui, on en manque terriblement dans notre monde actuel, ça c'est sûr. Merci beaucoup Anne, en tout cas. Allez, on va se quitter un court instant et c'est Marilyn qui va conclure avec nous.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Anne-Laure Buffet qui est avec nous, thérapeute et auteure de ce livre, Ces séparations qui nous font grandir. C'est aux éditions Erol. Je rappelle que c'est un livre qui peut vraiment vous aider si vous êtes dans une période difficile, vous êtes obligé d'accepter une rupture, une séparation, que ce soit en amitié, en amour ou malheureusement le départ d'un être proche. Marilyn, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure.
Bonjour Marilyn.
Bonjour, bonjour.
Donc vous avez divorcé de votre mari il y a 5 ans, hein, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Et alors le problème, c'est que ça a créé des difficultés avec vos enfants.
Voilà, c'est ça. Donc la difficulté qui s'est présentée dans ma vie, c'est qu'en plus de divorcer de mon ex-mari, donc j'ai été confrontée à la rupture, on va dire, affective de mes enfants. Donc voilà, effectivement une séparation complexe avec un conflit de loyauté et aussi une aliénation parentale qui fait que voilà, j'ai divorcé de mon ex-mari et mes enfants ont suivi plutôt le père. Donc j'ai été j'ai dû en
la vilaine. Vous étiez la vilaine.
La grosse vilaine, elle a osé.
Mais c'est vous qui avez demandé le divorce ?
Oui, effectivement. Effectivement, ah oui. C'est moi qui ai demandé le divorce et qui, entre guillemets, ai porté la culpabilité de cette rupture familiale.
Mais ils ont quel âge, vos enfants, au moment où vous demandez le divorce ?
Alors, ils ont 16 ans, 14 ans et 7-8 ans.
Ah oui, 16 et 14, c'est des âges particulièrement difficiles. Hein. C'est de là, surtout, je suppose, qui ont réagi fortement.
Tout à fait. Tout à fait.
Et donc, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est encore difficile. C'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de témoigner. Parce que je rencontre pas mal de parents qui sont privés de ce lien avec leur enfant, surtout des hommes. Bon, des femmes aussi, mais c'est plutôt rare, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important d'en parler, de dénoncer, en fait, cette rupture qu'on a à surmonter, nous, les parents, celui qui est, entre guillemets, qui a tort dans le couple. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est encore difficile. Ça dépend avec lequel de mes enfants. C'est plus difficile avec la plus grande. Et ça s'est amélioré forcément avec les autres. Mais bon.
Vous avez dit, Marilyn, qu'il y avait aliénation parentale, ce qui est quand même un terme très fort. Je remets pas en cause, hein, mais ce sont des termes très forts. Ça évoque quand même une manipulation de la part de monsieur à votre encontre et que, en utilisant les enfants. Vous avez essayé de mettre quoi que ce soit en place pour démonter les manipulations de monsieur ?
Bien sûr, bien sûr. Après, c'est pas sans fatigue. C'est pour ça que je témoigne aussi pour tous ces gens qui baissent les bras. Et qui, parce que c'est un combat perpétuel, j'ose le dire, c'est un combat de tous les jours où quand l'autre manipule, et bien, quand les enfants reviennent chez vous, bien, forcément, vous avez aussi de l'énergie à développer pour essayer de rétablir un lien. Donc c'est parfois, les parents baissent les bras, le parent en question baisse les bras. Donc voilà, et puis c'est ce deuil, puisque le sujet du jour est le deuil, c'est le deuil de l'ancienne relation où tout allait bien, où on était estimé comme un parent à part entière. Et du jour au lendemain, on bascule dans un parent qui n'est pas légitime, si je peux employer ce mot.
Bien sûr, bien sûr.
Je vais amplifier, parce que bon, c'est un sujet que je connais bien.
Oui.
C'est pas tellement que le parent n'est pas légitime, c'est que le parent est légitime tant qu'il reste dans l'image des enfants telle qu'elle est manipulée, tant qu'il reste monstrueux. Donc vous n'avez le droit qu'à ça. Mmh. Vous ne pouvez être que la mauvaise.
Mmh.
Donc ouais. C'est encore pire, parce que bon, pour vous c'est terrible, et pour vos enfants c'est terrible, parce que ça les oblige aussi à devoir renoncer à croire au fait que vous puissiez à un moment ou à un autre devenir ou être à nouveau une bonne mère.
J'ai
fait une phrase un peu longue, je suis désolée.
C'est clair.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a beaucoup de pères qui se retrouvent dans cette situation-là.
Oui.
Je vais pas développer, je vais certainement pas parler d'aliénation parentale aujourd'hui, mais les personnes qui ont à déplorer des situations où les enfants sont manipulés, instrumentalisés, sont plus souvent les mères que les pères.
Oui, c'est sûr.
Il est vrai que je comprends parfaitement que des pères soient en souffrance parce qu'ils voient moins leurs enfants qu'avant un divorce. Mais ça, c'est malheureusement ce qui se produit aussi avec un divorce. C'est qu'on verra de toute façon moins nos enfants qu'avant d'être divorcés. Mais votre situation, elle, au-delà du divorce et de la séparation, c'est le fait que les enfants soient manipulés qui est terrible. Et c'est vrai qu'il est nécessaire de se battre tous les jours et de renoncer au fait qu'on puisse à nouveau être dans le même lien que celui qu'on avait avant le divorce. Donc c'est créer quelque chose, c'est se proposer différemment et créer quelque chose de différent avec les enfants.
Mmh. Oui, oui.
Et puis les voir grandir.
Ce qui va vous sauver, oui, c'est qu'ils vont devenir adultes.
Mmh. Mais ouais, on espère.
oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que vous arrivez à les revoir, là, visiblement, j'ai cru comprendre.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les premières années ont été très difficiles, surtout la première.
Bien sûr.
Et non, oui, là, c'est... Oui, je les revois. Il y a encore des choses qui sont pas totalement au point, mais bon, ça évolue, quoi. C'est ce qui donne l'espoir, en fait, cette évolution qui va doucement, mais qui avance.
Et puis, vous avez quand même... Enfin, le côté positif, c'est que vous êtes quand même restée, si je puis dire, la bonne mère jusqu'à ce qu'elles aient un certain âge, hein, 16 ans, 14 ans. Elles ont donc quand même des repères qui sont des repères sains. Donc il faut le temps que, comment dirais-je, que l'adolescence se passe pour que tout se mette en place et qu'elles fassent un petit peu le point sur leur propre histoire. Hein. Je crois que c'est ce qu'il faut espérer. Et ça a l'air d'en prendre le chemin quand même.
Là, elles ont quoi ? Vos deux filles sont majeures ?
21 et 19, oui.
Tout à fait.
Oui, elles ont besoin aussi de trouver leur propre marque.
Oui, c'est sûr.
Et c'est difficile parce qu'en même temps, on ne sait pas trop qu'est-ce que le père a vraiment raconté, si c'est un père réellement manipulateur, si... Enfin bon, on a évidemment que votre témoignage. Mais bon, ça a l'air quand même de... Les choses ont quand même l'air de s'arranger, donc...
Gardez l'espoir.
C'est plutôt bon signe, hein, parce que ça peut vraiment, ces relations-là peuvent vraiment se dégrader au fil du temps, tandis que vous, ça a l'air de...
Oui, et elles peuvent aussi se réparer.
Exactement.
Heureusement.
C'est ce qu'il faut se dire. Merci beaucoup, Marilyn. Merci, Anne-Laure Buffet, pour toutes
ces
bons conseils que vous avez donnés et pour ce livre, ces séparations qui nous font grandir, qu'on va envoyer à Paul, qui nous a appelé tout au début de l'émission, évidemment. Demain, Ugraine est avec nous et on parlera donc des 9 mois de gestation. Qu'est-ce qui se passe ? Vous saurez tout demain.